Bonsoir, bonsoir. Nous sommes à nouveau à bord du NOSCAF de Silicon Maniacs avec en copilotage Denis Quentin Bruet.
Bonsoir Yann.
Et bonsoir Denis et donc Yann Min qui va vous faire voyager ce soir dans les contes de la noosphère à bord donc de ce NOSCAF de radio augmentée. Alors je rappelle pour ceux qui veulent nous rejoindre dans les mondes virtuels, puisque cette émission est en train de se dérouler en simultané dans un espace 3D temps réel de type vidéoludique, vous tapez noradio.com et sur ce site là vous trouverez l'adresse pour pouvoir vous connecter sur le monde virtuel dans lequel nous sommes actuellement et dont vous entendez les ambiances sonores. Alors ce soir c'est une émission, on reprend donc la première de tous les mercredis, les premiers mercredis du mois, Denis et Silicon Maniacs m'ont invité à vous faire voyager. Et donc chaque fois que vous entendrez les sirènes chanter, hein, les sirènes des pompiers, ça veut dire qu'il y aura une émission des contes de la noosphère le soir même, plutôt vers une heure plus tôt. Hein, ça
peut, sponsorisé par les pompiers, voilà. Malgré eux.
Et pas à 23h, mais plutôt vers 19h30, 20h les prochaines. Alors, ce soir, nous allons parler des... on va parler du combat, d'Adam et Ève contre les cyborgs. Mais je vais aborder plein d'autres sujets en amont et exceptionnellement, on improvise aussi puisque on a un invité parmi nous, un invité qui s'avère être un ex-jeune hacker qui s'appelle François et qui s'est fait arrêter par la police il y a quelques années pour avoir piraté des MP3. Alors, salut François.
Bonsoir.
Voilà. Et donc d'ici quelques minutes, tu vas nous raconter tes aventures de jeune hacker.
Hein, très bien.
Et une opération de police internationale t'a arrêté ainsi que tes collaborateurs. Je crois que c'était dans la ville du Havre, voilà. Entre Paris et le Havre en fait. Hein.
Pour ma part, oui, c'était vrai. Et ça se passait un peu partout dans la France et au-delà même.
T'avais quel âge ?
J'avais 20 ans.
T'avais 20 ans ?
Mm.
Et on va y revenir. On va y revenir. Alors, je vais commencer ce petit voyage dans les contes de la noosphère. Je vais d'abord vous parler de. J'avais envie de vous parler de la techné. Pour vous parler de la techné, je suis obligé de vous parler de Usenet. En fait, Usenet, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un très très vieux réseau, un réseau numérique très ancien, qui a été créé en 1979. C'est un des premiers réseaux du web, avant le web même, qui lui apparaît en 1990, et qui n'est accessible qu'à travers des logiciels spécifiques, qu'on appelle les newsreaders. C'est donc un réseau caché, d'autant plus caché maintenant que très peu de gens l'utilisent. Il a eu ses heures de gloire dans les années 90, et depuis qu'on est en forum dynamique sur le web, les newsgroups et l'accès aux news s'est un peu dépopularisé. Mais il y a encore des aficionados qui hantent Usenet, et donc on peut dire que c'est une sorte de réseau caché. Et dans les grandes heures de gloire de Usenet, tu es en train de me tirer dessus, Quentin.
Non, mais en fait, il y a plein de gens connectés, en fait.
Non, c'est vrai.
Il y a deux tireurs sur le monde virtuel qui nous empêchent de nous concentrer.
C'est génial. Donc, nous sommes... du monde nous a rejoints.
Est-ce que tu penses qu'on peut tuer nos spectateurs? Est-ce que c'est politiquement correct?
Essaye, il faut voir combien de points tu vas avoir. Tu peux lancer des livres aussi. Hein, c'est-à-dire, si on tape sur F...
Il n'y a rien de plus fort que la littérature.
On peut lancer un livre qui s'appelle... D'ailleurs, c'est ce qu'on jette à la tête des c'est Cybernetics de Norbert Wiener. Ah oui, effectivement, je vois nos deux visiteurs en train de se fraguer. Et alors, je vous le dis, il y a un chat. Hein, si vous voulez parler dans le chat, vous pouvez vous nommer et discuter dans le chat. Alors, donc je parlais d'Usenet. Et alors, Usenet était intéressant parce que dans les années, lorsque j'ai sorti mon roman Thanatos les récifs, je me suis connecté sur un forum, un newsgroup. Je vais pas attaquer ça tout de suite. C'était Fras, le newsgroup de science-fiction qui est extrêmement dynamique. Mais avant, je vais vous parler un peu d'anecdotes qui sont drôles par rapport à Usenet. C'est une histoire, une légende qui n'est pas une légende d'ailleurs, qui est authentique, qui est l'histoire du Gret Renaming, le grand renommage, ou la cabale de la dorsale. Rien que le nom, ça sonne tout de suite, théorie du complot. la Backbone Cabal. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Usenet, ce réseau des réseaux, enfin, c'est pas le réseau des réseaux, d'ailleurs, c'est Internet qui est le réseau des réseaux, mais Usenet, ce réseau donc essentiellement littéraire à l'origine, était relayé par les providers. C'est-à-dire, les providers avaient un peu tous obligation de relayer les échanges de Usenet avec toutes les arborescences de Usenet et tous les thèmes et les sujets qui étaient abordés. Et en fait, ce qui s'est passé dans les années... 87, je crois. Ouais, c'est en 1987, un certain nombre des grands directeurs de providers, on va dire des gros providers de l'Internet, trouvaient que ça les embêtait. Ça les embêtait de relayer toute cette somme d'informations. Et surtout, ils avaient des réticences avec l'ouverture à l'Europe. C'est-à-dire, les Européens étaient un peu emmerdés par certains sujets qui étaient abordés dans les forums Usenet, en particulier liés à la sexualité, à la pornographie et... à la politique, et à la violence, l'horreur, les images gore, etc. Et donc il y avait des réticences morales des Européens à transférer, à accueillir, à relayer Usenet. Donc du coup, il y a eu une espèce de complot, on va dire, des grands providers pour dire on va réécrire, on va reconstruire l'arborescence Usenet, et dans la foulée, ben, on va en profiter pour virer tout ce qui dérange, quoi, tout ce qui pose des problèmes au niveau du politiquement correct. Et donc c'est ce qu'on a appelé le Great Renaming, c'est-à-dire le renommage de l'arborescence Usenet. Et bah, ça en a énervé certains. C'est-à-dire, c'est intéressant parce qu'on a déjà les guerres pour la liberté d'expression présentes. Hein. Certains acteurs se sont dit, ben non, nous, ça nous embête. Et ils vont créer un réseau alternatif qui va s'appeler d'ailleurs ALT. ALT point quelque chose, c'est-à-dire une arborescence de Usenet qui va prendre le préfixe ALT pour alternatif et dans lesquels on va mettre tout ce qu'on veut. Et là va apparaître tout un tas de forums et de groupes qui sont précédés donc par l'arborescence ALT, à nouveau évidemment la pornographie, à nouveau la violence et tout ça, la politique. Les fascistes aussi vont en profiter pour continuer de se propager sur
Internet. Et les trois en même temps, parfois.
Peut-être, ça peut arriver, ouais, les trois en même temps. C'est le grand jeu d'aller s'exprimer donc, sur le réseau littéraire. Et alors, parmi tout dans cette arborescence ALT, il va y avoir l'arborescence ALT binarise, où on va pouvoir avoir des images. Et pourquoi j'en parle ? C'est parce que c'est lié aussi à l'histoire d'Internet. Vont apparaître, ça va donner naissance au Munch. On est encore dans l'histoire de la cyberculture, c'est-à-dire les adeptes de Sadoma masochisme de San Francisco fréquentaient l'arborescence ALT binarise bondage, c'est-à-dire ils échangeaient des images de bondage sur l'arborescence ALT point binarise bondage. Et un jour ils se sont dit, mais pourquoi on se donnerait pas rendez-vous dans un resto pour discuter, ne serait-ce que discuter, même pas pour pratiquer. Et ils ont commencé à se donner des rendez-vous à San Francisco, et ils ont appelé ça les Munch, M-U-N-C-H, c'est-à-dire ces repas d'amateurs de sadomasochisme ou de BDSM utilisant en fait le réseau. Et ce mot Munch va devenir emblématique, puisque actuellement dans le monde entier il y a des Munch organisés par la communauté cyber, je dirais cybersexuelle et BDSM. Et du coup ça me ramène juste à une petite anecdote que je voulais raconter aussi sur l'histoire de la cyberculture, que j'avais oublié malheureusement quand on a fait cette émission, Denis, sur le cybersexe. J'ai oublié de rappeler un truc qui est quand même assez impressionnant en termes d'invention cybersexuelle, c'est la pilule. La pilule est une des plus grandes inventions, un des outils de cybersexe les plus puissants qui a été inventé par l'humanité. Et en plus, pour revenir au débat de tout à l'heure, c'est en plus un outil, on va dire, franchement transhumaniste, hein, puisqu'on va transformer l'humain, en l'occurrence la femme, pour du confort, en fait, on va dire, du confort sexuel, qui est d'éviter d'avoir des enfants lorsqu'on a des relations sexuelles.
Et alors la capote aussi.
Oui, mais la capote ne transforme pas le corps, tu vois, c'est un peu plus primaire. Effectivement, la capote est un outil cybersexuel, il n'y a aucun doute.
C'est une prothèse, quoi.
C'est une prothèse, tu vois. Mais par contre, la pilule, c'est quand même d'abord un outil très sophistiqué au niveau scientifique. Hein. Pour le mettre au point, il a fallu pas mal de développement et de recherche scientifique à un niveau assez élevé. Et il transforme, il agit sur les hormones. Hein. Il va modifier quand même le corps humain. Donc on touche, et ça va poser d'ailleurs les mêmes problèmes, hein, les fameux problèmes éthiques, les problèmes de morale. C'est dérangeant. Ça va déranger un certain nombre de gens qui n'aiment pas, qui sont réticents.
Qui ont du mal à avaler la pilule, oui.
Voilà, c'est le cas de le dire. Et alors, je vais continuer donc sur... sur Usenet. Et après cette petite aparté, hein, c'est qu'un des newsgroups francophones emblématiques, hein, pour la qualité de sa courtoisie et de ses échanges à la fin des années 90, était le forum dédié à la science-fiction. Il y a eu d'ailleurs même plusieurs félicitations des dinosaures, on appelle ça les dinosaures. Ah oui, c'est intéressant, dans l'arborescence Usenet, il y a les dinosaures. Les dinosaures, ce sont les vieux de la vieille de l'Internet. Alors si vous arrivez un jour, si vous faites l'effort de récupérer le logiciel pour aller visiter Usenet, ou tout simplement vous faites Google Groups, parce que ça aussi c'est intéressant au niveau de l'histoire, c'est que Google a racheté, a mis en ligne toute l'histoire de Usenet, une grande partie de l'histoire de Usenet, et on trouve des archives, donc des échanges, des romans qu'on s'échangeait à l'époque. Et donc les dinosaures ont un forum spécial qui est FR Dinosaure quelque chose, et en fait quand vous y arrivez, vous ne voyez pas, il n'y a aucun texte. On dirait qu'ils n'échangent que des pages blanches. Et en fait, il faut savoir qu'ils échangent, mais dans le corps, dans la partie cachée, qui sont toutes les adresses et les données techniques du texte. Et en fait, ils échangent leurs messages à l'intérieur de cette partie-là, qui n'est pas accessible, on va dire, aux newbies ou aux communs des mortels qui ne sait pas manipuler au départ les fonctions du logiciel. Bon, ça, c'est juste une anecdote. Et donc, je reviens sur Face. À l'époque, on échangeait. Donc, j'ai mis, vous verrez vous trouverez sur nos radios les liens vers les textes. Hein. C'est-à-dire qu'à l'époque, dans le milieu de la science-fiction, on s'échangeait des textes. On faisait de la création littéraire. On écrivait des textes et des nouvelles. Et les premiers contes de la cyberculture, ces petites histoires que je me raconte à chaque rendez-vous, ont eu leur première diffusion en fait sur Usenet à cette époque-là. Et alors, parmi les utilisateurs de Usenet, il y avait une prof de philo. Nathalie Labrousse qui faisait en fait de l'assistance philosophique à la demande. Et je vous en parle parce que c'est avec elle que j'ai découvert, enfin c'est à l'époque où j'ai inventé le mot noonaute. Et en discutant et en profitant de son savoir, j'ai appris ce qu'était le noous, hein, d'où venait le mot no et noous. Et donc je vais vous le faire parce que c'est un des sujets qui moi m'a passionné. Alors, c'est que en fait Nathalie Labrousse va nous expliquer qu'en fait le préfixe no vient d'un vieux truc, hein, des Grecs. C'est à l'origine de notre histoire, on va dire. C'est-à-dire que les Grecs, dans l'Antiquité, à l'époque d'Aristote, n'avaient pas. C'est les balbutiements de la science, ils n'ont pas la science. Et la grande question que tout le monde se pose, c'est, qu'on se pose toujours d'ailleurs, c'est bah, qu'est-ce que c'est, qui sommes-nous, d'où sommes-nous, où allons-nous, qu'est-ce que le réel. Donc la science, actuellement, nous donne un certain nombre de réponses, mais à l'époque, ils n'avaient pas un système scientifique aussi développé. Et ils avaient développé, c'était plutôt une civilisation, je dirais, mystique, métaphysique, et ils avaient développé. 5 systèmes, comme va nous l'expliquer Nathalie Labrousse, 5 systèmes de pensée qui sont la techné, l'épistème, la phronésis, la sophia et le nous. Ça, c'est dans Éthique à Nicomaque, livre 6, métaphysique. Et alors, je ne vais pas essayer de vous expliquer ce que sont l'épistème, la phronésis, la sophia, ni même le nous, puisqu'on en a déjà parlé dans les émissions précédentes. Évidemment, l'épistème va donner l'épistémologie, la sophia va donner la philosophie. Et je vais par contre vous parler de la techné parce que j'ai compris ce qu'était la techné. Et j'espère que ça va vous parler à vous aussi. C'est un processus initiatique. La techné, ça va donner la technique, mais le mot technique est un peu une réduction du concept. En gros, ça concerne les artisans. C'est-à-dire la techné, enfin évidemment, quand c'est un peu comme le Seigneur des Anneaux, hein, vous passez par toutes ces étapes-là, et ensuite vous les chapeautez avec le Noos, c'est comme le dernier anneau qui les chapeaute tous, et là vous avez tout compris de la vie et de l'univers, et vous avez rejoint les dieux. Hein. Alors, je vous explique la techné, et ça c'est passionnant. Parce que je suis un artiste, je suis un créateur, et la techné, ça concerne les gens dont le problème, c'est de matérialiser dans le monde réel ce qu'ils ont dans leur tête, en fait, de fabriquer, de faire exister les choses. Et en fait, quand vous commencez à travailler, quand vous commencez à créer, on s'aperçoit très vite et très tôt que le réel ne se laisse pas faire. C'est-à-dire qu'on a une idée en tête, on a envie de faire un truc, et puis on va se battre. On va très vite se rendre compte que bah, ça ne se fait pas comme ça, et qu'il faut se battre avec le réel pour fabriquer ce qu'on a à faire. Et au bout d'un moment, à force de se battre avec le réel, et ben, on va changer de sens. C'est-à-dire qu'il y a une interaction, un dialogue qui se passe avec la réalité, ce qu'on appelle la réalité, on ne sait pas ce que c'est, et où petit à petit on va fabriquer quelque chose qui est à la fois issu de ce qu'on avait dans la tête au départ et de ce dialogue, cet échange qu'on a eu avec la réalité. Et de là, l'œuvre apparaît, et cette œuvre est donc nous transcende, nous dépasse. dépasse quelque part, puisqu'elle est à la fois chargée de ce que nous avions dans la tête, plus ce que le réel y a mis par l'échange qu'on a eu avec lui. Comme le réel, on ne sait pas ce que c'est, cette dimension qui a été amenée dans l'œuvre par le réel peut avoir des dimensions extrêmement puissantes, extrêmement fortes, on le voit pour les très très grandes œuvres d'art. Et le truc de la techné, c'est qu'en fait, cette connaissance qu'on acquiert en se battant avec le réel, eh ben, on ne peut pas la transmettre. C'est-à-dire qu'elle est intime, elle est personnelle. On finit en tant qu'artiste, en tant qu'artisan, en tant que créateur, qu'ingénieur même, ingénieur qui fabrique des machines. On finit par savoir que ben, pour que la chose fonctionne, pour qu'elle existe, il va falloir négocier d'une certaine façon avec la réalité. Et ce feeling du réel est quelque chose que, même si j'ai un assistant à mes côtés, je ne pourrai pas lui transmettre mon feeling du réel. Il va devoir se forger lui-même sa propre relation à la réalité. Donc là, on a une connaissance initiatique du réel qui n'est pas transmise, transmissible, qui passe par la pratique et qui est de nature littéralement métaphysique. Et évidemment, le principe, c'est qu'on va passer par l'épistème, la phronésis, la sophia, le nous. Et chacune de ces méthodes cognitives vont nous donner une parcelle de la compréhension de ce qu'est la réalité. Donc voilà, c'était juste une aparté sur la techné que je voulais faire, parce que la techné nous concerne dans la cyberculture, puisque nous passons notre temps à nous battre, à devoir nous battre avec la réalité lorsque nous voulons créer des choses. Et surtout, il y a une chose étrange qui se produit, c'est que l'art se dématérialise, c'est-à-dire qu'on ne se bat plus avec des objets réels, mais on se bat avec des dispositifs immatériels qui font que les œuvres sont d'emblée dans l'immatérialité. Et c'est intéressant ce qui se passe. Mais bon, voilà. Je vais maintenant tout de suite aborder les petits contes de la noosphère. Et je vous avais préparé un petit conte qui était, mais je vous le ferai la prochaine fois, une histoire de chalutier coulé dans le port de l'Orient. Mais profitant de la présence exceptionnelle de François Parvinoux, nous allons faire un petit interview et un petit entretien avec un jeune hacker qui va nous raconter un épisode de sa vie de hacker. Alors François, donc tu es avec nous.
Oui.
Et alors, dis-nous, qu'est-ce que tu faisais en fait ? Au départ, c'était quoi votre activité ?
Déjà, ouais, il faut se resituer dans le contexte en fait du début des années 2000, parce que maintenant l'informatique a s'est évolué en fait et la relation en fait avec Internet n'est plus la même. Et à l'époque, j'étais juste lycéen internaute lambda comme tout le monde. Passionné de cinéma, c'est aussi ça. Et donc on cherchait un moyen en fait de pouvoir consommer en fait du cinéma
gratuitement,
voilà.
Et alors,
et le partager.
Et alors, qu'est-ce que vous faisiez alors ?
Donc ce qu'on faisait en fait, c'est il existait en fait des logiciels pour pouvoir télécharger à l'époque des MP3 et des films.
Ouais.
Mais ça ne nous satisfaisait pas en fait encore. Il nous en fallait encore plus.
Ouais.
Et donc on cherchait un moyen d'accumuler toutes ces données. Et à l'époque, les disques durs n'étaient pas assez gros en fait pour pouvoir accueillir tout
ce que vous piratiez.
Tout ce qu'on piratait, ouais.
Voilà, et alors ?
Et donc on s'introduisait dans des entreprises internationales. Et ouais. Aussi des universités plutôt américaines, parce que les Américains en fait étaient conscients de notre intrusion, mais finalement ils s'en foutaient en fait.
Ils ne sévissaient pas.
Ouais.
Ou alors ils avaient la flemme de sévir, tu penses, ou il y avait une tolérance, une bienveillance à votre égard ?
J'ai jamais vraiment su la réalité, parce que c'est vrai que c'est étrange. C'était clair quand on naviguait en fait sur Internet qu'ils nous voyaient, ils nous connaissaient. Mais
ils n'intervenaient pas.
Ils intervenaient en fait en supprimant les films une fois toutes les semaines ou tous les mois.
Ouais.
Mais après, ils nous laissaient c'est un peu comme s'ils nous laissaient en fait les clés de la maison.
Ouais.
Et de temps en temps, en fait, ils prenaient nos bagages et puis ils les jetaient dehors. Et puis après, ils nous laissaient rentrer.
Et dis-moi, comment vous repériez les adresses à câble justement ? Comment vous faisiez pour repérer qu'on pouvait rentrer dans un tel ou tel serveur ?
Alors, en fait, moi, j'étais un maillon de la chaîne.
Hein. Ouais.
C'est-à-dire qu'on m'a donné en fait des instructions. On m'a dit tu fais ça, ça, et ça marchera. Donc, on s'est servi d'un logiciel,
ouais,
qui a été un peu détourné en fait de sa fonction première.
D'accord.
Pour pouvoir justement scanner. Et donc, il scannait à une très grande vitesse en fait un grand nombre d'adresses IP.
Et dès qu'il voyait qu'il y avait possibilité d'intrusion, il le faisait.
D'accord.
Et après, on donnait ou pas notre accord au
logiciel.
D'accord.
Et alors, vous aviez des recommandations. Il y avait des sites qu'il ne fallait pas hacker, je crois.
Il y avait plusieurs règles en fait qui étaient fixées. C'est premièrement, éviter les entreprises, mais surtout éviter les entreprises françaises.
Ouais. Pourquoi?
Parce qu'il y avait le risque en fait de vite être repéré.
Ouais.
Et donc voilà, c'est.
Et je crois que vous étiez organisé sur une arborescence de Jedi, si je ne me trompe pas.
Oui, oui. Bon, un peu comme beaucoup de sites, en fait, on se donne des noms comme Padawan, Jedi, Grand Maître.
D'accord. Voilà. Donc, George Lucas a été un grand inspirateur des.
Oui, en quelque sorte.
Des hackers. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est là que l'aventure commence à un moment. Donc, toi, tu es en train de faire ça sans même te douter ou vraiment, tu avais vraiment conscience de l'illégalité de la chose?
À partir d'un certain niveau, oui. Quand.
Ah, vous saviez.
Quand on commençait à rentrer sur des entreprises assez importantes, internationalement parlant, c'est vrai que là, on faisait assez attention. L'ordinateur, il tournait 24 heures sur 24, juste à côté de mon lit, parce que j'étais dans un studio. Je vivais constamment en fait, avec lui, donc il y avait peut-être ça aussi. J'étais tellement à part entière, en fait... Dans cet univers que peut-être que j'avais plus conscience en fait de ce que je faisais.
D'accord. Et alors moi l'histoire commence, j'ai un coup de fil de toi qui m'appelle paniqué.
Oui.
Où tu me dis Yann, je suis embêté parce que voilà, il y a la police d'ici les Moulineaux qui veut absolument me voir et puis ils sont arrivés
chez ma mère.
Voilà, c'est ça. Et ils ont saisi tous les ordinateurs et tu me dis que tu as jeté ton disque dur dans la Seine et tu es un peu... qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Et là, je te dis, bah, viens me voir, rejoins-moi, on va en discuter. Et je suis un peu perplexe déjà. Et je me rappelle très bien, c'était assez rigolo parce que quand tu arrives, tu me dis, la police a fait une opération internationale. Ils sont en train d'arrêter tous les copains. Ils sont arrivés chez ma mère au Havre. Et ils ont saisi tous les ordinateurs chez ma mère et ils sont en train de m'appeler la police d'ici. Lumino, hein, je crois que c'est ça, il est en train de m'appeler. Et alors là, je te dis, mais t'as fait quoi? Et toi, tu me dis, j'ai juste piraté quelques musiques. Là, je dis, non, mais ils font pas un truc comme ça pour un mec qui pirate quelques musiques. Et donc, tu m'arrêtes, hein, si je me trompe, hein, on va discuter un petit peu, et là, c'est là que tu m'expliques, en fait, à peu près ce que tu viens de me dire. Et là, je te dis, écoute, tu vas quand même pas rentrer dans la clandestinité pour la musique piratée. Hein, il faut y aller, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que tu ailles voir les flics d'ici les Moulineaux parce que tu vas pas rentrer dans la résistance à cause de. C'était quoi? Madonna? Non, c'était. Ou à cause du cinéma?
Non, ouais, c'était vraiment du cinéma. Mais en fait, j'ai vraiment eu énormément de chance en fait, parmi tout le groupe en fait, qui s'est fait prendre. Déjà, je connaissais aucun de mes collègues, entre guillemets. On les connaissait juste sur internet. Donc, j'ai commencé ça au Havre. Après, j'étais sur Paris, ouais. Entre temps, parce que j'ai eu mon bac, et donc je suis parti faire des études sur Paris. Sauf que toute la filature, en fait, s'est faite au niveau du Havre.
D'accord.
Donc, quand les gendarmes, en fait, ont perquisitionné à 6 heures du matin, en fait, chez ma mère au Havre, ils pensaient me retrouver là-bas, en fait. Sauf que manque de peau, en fait, j'y étais pas. Ils ont juste pu prendre les ordinateurs. Et entre temps, en fait, moi, j'avais éteint mon téléphone dans la matinée et je le rallume à la pause vers 10h. Et là, je reçois 4 messages. Et donc, ce qui était incroyable à l'époque, vu le nombre d'amis que j'avais.
D'accord.
Et là, je vois que justement, ma mère m'a laissé 2 messages et la gendarmerie 2 autres. Mère qui m'explique tout.
Alors donc du coup, tu vas y aller, hein. Tu vas aller à Issy-les-Moulineaux, tu vas te rendre, on va dire, c'est ça?
En fait, ils m'ont demandé de venir, mais c'est peut-être là où ils ont raté leur coup, en fait, c'est qu'ils m'ont pas dit d'heure fixe, en fait, ils m'ont pas dit exactement à quelle heure venir, et il y a pas une réelle convocation, en fait. Et ce qui m'a laissé pas mal de temps pour préparer ma défense.
Voilà, pour préparer ta défense. Et est-ce que tu crois que c'était pas une erreur finalement d'avoir détruit le disque dur? Parce que du coup, ils pouvaient t'accuser de ce qu'ils voulaient, puisqu'ils avaient plus la preuve exactement de tes actions.
J'avais pas connaissance non plus de.
Ouais, des procédures. Alors raconte comment ça se passe. C'est un peu cow-boy l'ambiance, si je comprends bien.
À la gendarmerie?
Ouais.
Oui, ouais. Donc, je les appelle en fait le jour même en leur disant, ouais, voilà, que s'ils veulent me voir, je suis prêt. Et donc, ils me convoquent pour le lendemain matin à 8h.
Ouais.
Là-bas, ils m'expliquent en fait qui je suis. Bah, ils m'appellent en fait par mon pseudo en fait sur Internet.
Ouais.
Et ensuite, ils m'expliquent que toute ma bande a été attrapée.
Ouais.
En citant tous les noms. Ce qui était assez marrant en fait, c'est que le chef en fait de la brigade me disait qu'il avait chopé en fait tous les gars de la bande. Et à chaque fois qu'il disait les noms, il simulait en fait comme s'il avait un fusil en fait dans les mains et qu'il tirait à bout portant sur chacun des.
D'accord, on est en plein jeu vidéo.
Un petit peu. Et donc ils avaient vraiment la tenue. En plus, c'était pas la simple tenue du gendarme, c'était vraiment la combinaison en fait que parfois peuvent avoir le GIGN et tout ça. Donc,
d'accord, c'est impressionnant ou pas? T'as 20 ans, tu te retrouves là-bas, c'est impressionnant.
Oui, c'était aussi ma première garde à vue. Donc,
D'accord. Bon, et là, bon, ils vont t'interroger, ils vont prêcher le faux pour savoir le vrai, ils vont te foutre la pression.
On va d'abord faire une perquisition chez moi à Paris.
Ouais.
Ils vont fouiller partout, ils vont tout retourner, ils vont prendre mon ordinateur. Voilà, tout se passe bien. J'avais le temps de mettre sous le tapis 2-3 CD en fait que j'avais oublié de cacher.
Ah bon?
Oui.
T'as fait ça?
J'ai eu extrêmement de chance parce que c'était un peu un coup de bluff en fait que j'ai fait pour le coup. Ils ont voulu chercher sous le tapis justement s'il y avait des CD cachés. Et je les ai devancés en leur disant j'ai posé un pied sur les CD au niveau du tapis. J'ai soulevé l'autre partie du tapis en leur disant non, regardez. J'ai soulevé l'intégralité du tapis, sauf la partie où il y avait les CD.
Ah, ça, c'est une petite victoire qui est pas mal quand même.
Et là, ils ont dit ah, ok, j'ai soufflé. Parce que s'ils avaient vu, là, c'est.
Pourquoi? Il y avait quoi dans les CD? Il y avait tous les codes pour entrer dans le serveur de la CIA et du FBI?
Non, rien de méchant, mais voilà, je pense qu'ils l'auraient vraiment très mal pris s'ils avaient vu que je tentais de dissimuler quelque chose.
Ah oui, t'as raison, ça peut les énerver très fort. Bon, et ils vont vouloir te faire signer après ta déposition, après l'interrogatoire, hein, ils te font l'interrogatoire, on va aller vite à la fin de l'histoire. Ils te font l'interrogatoire, ils te font signer la déposition, et là il se passe quelque chose quand même, quand tu signes la déposition. Non ?
Rafraîchis-moi.
Bah, j'ai l'impression qu'ils essaient de te faire dire que tu es le chef du réseau, si je ne me trompe pas.
Non ? C'est bah effectivement, il tentait une approche. Il cherchait forcément le gros poisson en fait quelque part.
Ouais.
C'est un peu comme pour les trafics de drogue ou quoi que ce soit. Il cherche tout le temps à savoir qui est le gros poisson. Et en général, c'est pas celui qu'on croit. Donc ils en viennent à se poser la question en fait si ça peut éventuellement être moi en fait. Mais sachant que il n'y avait pas de trace. Moi je m'étais pas introduit directement sur l'entreprise en fait qui avait porté plainte à l'origine.
Ouais. D'accord. Mais donc tu vas signer le premier procès-verbal ou
On me demande en fait de tout relire. Il y avait quelques tournures que j'appréciais pas et mais sinon
D'accord.
Après relecture, je signe.
Bon ben voilà. Et donc en fait normalement tu risquais gros, hein. C'est 300 000 francs d'amende je crois et de la prison.
À l'époque ouais, c'est maintenant ça a changé avec Adopi. Mais c'est finalement c'était ils m'ont dit hein, clairement que c'était pas le trafic de films qui les intéressait. C'était vraiment l'intrusion en fait dans une entreprise, une assurance très connue
ouais.
Qui a posé problème.
Mais c'est ce que j'ai su après aussi, c'est que c'était plus lié à en fait une tentative de cybercriminalité russe.
Ah bon?
Une sorte de, en fait, c'était un passionné en fait de cybercriminalité russe qui était dépendant en fait de d'internet et qui pouvait pas s'empêcher de s'introduire dans ces entreprises en se dissimulant dans des groupes tels que le nôtre.
Ah, vous étiez donc infiltré par un grand hacker de la mort. Bah, c'est ça qui vous a instrumentalisé. En
selon, fait. Selon quelques anciens collègues. Ouais.
Bon, et alors, t'es en prison ou pas là? Comment ça se fait que tu sois pas en prison?
C'est qu'il n'y avait aucune charge contre moi.
Ils ont laissé tomber en fait. C'est ouais. Ça. Ils ont été plutôt cool en fait, finalement.
Oui, je me suis un peu caché, on va dire. J'ai pas cherché à en savoir plus. Parce qu'ils ont toujours tous mes ordinateurs de l'époque.
Qui date, ils ont tout donc, gardé, quand même.
Du début des années 2000. Il y avait une certaine valeur dedans parce que c'était mes premiers pas sur Internet, informatique. Il y avait des données qui m'intéressaient beaucoup, qui étaient ouais. dures à voir. Et...
Bon, et alors, et maintenant, tu continues de hacker ou pas?
Non, maintenant, je me suis rangé.
C'est ce qu'ils disent tous. Bon, bah écoute, c'était. En tout cas, moi, j'ai bien aimé ton témoignage parce que c'est quand même une histoire rigolote. Qu'est-ce qu'on pense, Quentin?
Oui, c'est assez fascinant, surtout connaissant mon degré de compétence en termes de hacking, voire d'informatique, alors que j'en parle toute la journée. Il faudra que, sans forcément aller jusqu'à hacker le monde entier, j'aimerais bien savoir, je sais pas, hacker un Wi-Fi par exemple. Ce serait une sorte de premier pas.
Mais finalement, je suis pas forcément plus compétent que n'importe quel internaute.
Que moi, tu l'es. je tiens à le dire.
C'est comme je dis, en fait, dans une organisation, il y a toujours un cerveau et puis après, il y a...
Donc c'est toi le cerveau. C'est pas un petit sourire.
C'est la question à 1 million de dollars.
Qui est le cerveau?
Je me la pose toujours. Est-ce que justement ce serait ce cybercriminel russe? Est-ce que ce serait un médecin belge qui faisait aussi partie de l'affaire? Je sais toujours pas.
Ça t'a rendu paranoïaque?
un petit peu. C'est les mois qui ont suivi, ouais. Je faisais attention à tout ce que je faisais sur Internet après.
Bah t'as intérêt, hein. Surtout que je me rappelle que quelques semaines après, tu m'as dit, bon, est-ce que tu crois que je peux à nouveau aller pirater quelques films?
Oui, effectivement. Bah, toujours par rapport à la remarque qu'on m'avait faite, c'est pas les films en fait qui posent problème, c'est vraiment l'intrusion en fait.
Ouais. Ouais.
Parce qu'on a finalement... nous-mêmes avions accès à une base de données énorme. On avait accès à des comptes bancaires, à des données vraiment très personnelles sur des gens. Sauf qu'on avait une certaine morale. Donc ouais. On faisait rien avec.
Enfin, toi, tu n'en faisais rien. Peut-être
oui, voilà.
Que le cyberhacker russe, lui, avait trouvé le plan.
C'est la question.
Bon, eh ben, écoute, François, bah, super, merci pour ton témoignage.
Non, merci.
Alors,
à vous.
Quentin,
merci.
Il nous reste un peu de temps, pas à ton avis aussi.
Oui, 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 bien sûr. Oui.
Tu t'effondres endormi.
Je suis un peu fatigué.
Alors, bah, je vais poursuivre. Alors, bah, donc, merci François pour ton petit conte de la noosphère. Moi, j'ai beaucoup aimé ton témoignage. Ça nous a fait un peu voyager dans les mondes des Robin des Bois de l'informatique. Et,
ça m'a donné envie de t'offrir un DVD. J'en ai pas sur moi, mais il faudrait juste que tu vois à quoi ça ressemble.
D'accord.
Tu vois un peu ce que c'est?
Un DVD.
Un DVD.
les trucs qu'on achète dans les magasins, qu'on met dans des
les magasins.
À l'époque, il y avait pas encore de.
Il y avait pas si, encore. Si, il y avait ça, pas encore de magasins.
Non, je parle du DVD gravable. Parce que c'est vrai qu'on gravait beaucoup. Non, c'était pas encore assez démocratisé.
Ah d'accord.
C'est pour ça. C'est vraiment une époque vraiment révolue. Quand on voit que...
Ah, tu veux dire que c'était uniquement parce que vous ne pouviez pas les backuper sur des DVD que vous alliez hacker les serveurs des universités américaines. Comme quoi, ça ne tient à pas grand-chose. Hein,
ah non, mais vraiment, c'était une question de capacité.
C'est pas mal, c'est pas mal.
Ah ouais, c'est...
comment on va dire
la nécessité est mère de l'invention.
L'effet de bord, des universités américaines comme comment on sert, dégâts collatéraux du stockage informatique.
Désolé les gars, j'ai pas de place
sur mon disque dur.
Virez vos comptes bancaires là, poussez-vous un peu.
Allez, on va aller terminer donc sur ce petit voyage dans les contes de la noosphère. Et je vais revenir au sujet d'origine qui est Adam et Ève contre les cyborgs. Alors en fait, je suis un peu parti ailleurs. Au départ, je voulais vous parler de tous ces films, hein, faire un peu pasticher un peu ton excellente émission de geek. Ouais, hein,
excellente émission.
Qui parle du cinéma, justement, de la culture pop. Et je m'étais dit, tiens, il faudrait qu'on revienne sur Matrix, qu'on avait abordé l'autre fois, sur aussi Terminator, sur 2001, sur tous ces films, en fait, qui
font
contenu,
de la propagande contre les robots.
Voilà, dans le contenu est explicitement anti-robots, anti-machines. Attention, danger, les machines, ça craint. Hein, surtout que, et aussi, et en particulier, entre autres dans Matrix. D'ailleurs, j'en profite d'ailleurs pour faire une petite rectification, parce que quand on avait parlé de Matrix, j'avais dit qu'il y avait autour de Matrix, j'aimais bien ce qu'il y avait autour de Matrix parce que c'était assez novateur, autour de la gender studies, du queer, du fait qu'un des frangins se transforme en femme. Mais par contre, en discutant avec Swazik de Matrix, elle était très énervée. Elle peut pas venir ce soir, c'est dommage, mais elle était très énervée en disant, ouais, mais quand même, Trinity, c'est quand même la pouffe totale, quoi. C'est-à-dire qu'elle ne vit que pour sauver Neo et elle meurt, elle se sacrifie à la fin, tu vois, dans une abnégation totale pour son héros masculin. Donc c'est quand même assez androcentré et pas tellement, queerment correct, en fait, le contenu.
Mais comment ils auraient pu faire pour que ce soit queerment correct ?
Eh bien, ils virent Neo, ils mettent une nana à la place de Neo. Il suffit juste que tu inverses le rôle.
Oui, mais ça aurait été...
Et puis, Trinity pouvait très bien ne pas mourir dans cette abnégation à la fin. Tu vois.
Trinity aurait dû se barrer pour devenir totalement lesbienne.
Totalement, bah oui, absolument. ça aurait été très drôle, d'ailleurs. Tu vois,
c'est... Wow.
Plutôt, mais bon, il fallait qu'elle s'en aille pour qu'il puisse se faire pénétrer par la machine, quand même. Hein. À la fin, là, il se fait quand même bien...
Une belle moralité
bien pénétré
pour les générations futures.
C'est intéressant, d'ailleurs, parce qu'il se fait pénétrer par la machine qui est très masculine. Hein. Il y a carrément... c'est un peu ringard, même cette espèce de visage masculin qui apparaît dans la machine, qui est le père, hein, qui est quand même bien, on le sent bien, bien lourd, quoi, ce personnage-là. Donc le petit Néo, il se fait un peu malmener par un gros baraqué, là, hein, un gros camionneur machine, hein, c'est clair. Bon, enfin, on va pas s'éterniser là-dessus, mais bon, il y a quand même dans ces films un contenu, donc je vais y aller assez rapidement. Il y a quand même un contenu qui dit explicitement attention, les machines, c'est dangereux, c'est mal. C'est l'expression d'une peur qu'on a vis-à-vis de la technologie. Et il y a très très peu de films en fait qui vont prendre le parti pris inverse. Même Avatar. Avatar, c'est une des... On en parlait tout à l'heure, mais
Avatar,
c'est la nature contre la technologie. Quoi. C'est la technologie, c'est pas bien. Quoi. Les machines, c'est pas bien. Et c'est donc l'expression de quelque chose de courant. Alors de toute façon, on s'en fout. On s'en fout parce qu'il y a un truc qui désactive complètement le contenu. C'est la forme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la fameuse aphorisme de Marshall McLuhan, le message chez le médium. C'est-à-dire que pour nous dire que les machines, c'est pas bien, on utilise la technologie la plus sophistiquée de la planète, hein, c'est-à-dire le cinéma le plus cher qui met en place les effets spéciaux les plus complexes, et on va utiliser la machine, littéralement l'énorme machine, pour nous faire comprendre que c'est dangereux, la machine. Et alors Matrix est d'une perfection à ce niveau-là, puisqu'on est en plein dans un monde virtuel, hein, un monde fictif, on est en immersion dans un monde imaginaire, et qui nous dit c'est pas bien d'aller dans les mondes imaginaires, hein, et on risque de s'y perdre, hein, et de perdre notre identité. Et ce qui rejoint d'ailleurs mon installation Média Zéro, qui est donc dans le monde actuellement, où aussi je racontais donc cette histoire c'est un archétype, en fait, c'est l'histoire d'une nana qui meurt de rester trop longtemps dans les mondes virtuels. Et en racontant cette histoire-là, j'utilise une super technologie. Donc il y a en contrebalance, comme dans Terminator, le discours officiel par un discours subliminal qui est pro-technologie. Et pour parler de cette peur, je vais terminer là-dessus pour parler de ces peurs. Alors surtout, n'oublions pas, j'en profite parce que je vais oublier après, demain vous êtes conviés à un vernissage. À propos, je change de sujet totalement, mais demain je fais un vernissage à la manufacture qui est 42, hein, rue de Rochechouart, hein, je crois que c'est ça.
Attends, je 42 rue de Rochechouart dans le 9e arrondissement.
Voilà, exactement. Et en fait, je fais une expo. J'ai eu le plaisir d'être invité à exposer à la manufacture, qui est un des lieux rock, un bar rock. Hein. Alors, c'est visiblement un des. Comment on va appeler ça ? c'est maintenant un des nouveaux bars cyberpunk. Moi, je dis que c'est des lieux cyberpunk, c'est-à-dire qu'il y avait à Paris, il y avait quatre grands bars cyberpunk. Il y avait la Cantada, mais je crois que la Cantada a fermé. Non, c'est pas la Cantada qui a fermé, c'est le Catabar. Voilà, le Catabar a fermé. Il y a la Cantada qui est toujours ouverte. Il y a le comment ça s'appelle, il y avait le restaurant là qui est lié au club qui s'appelait le Black Dog, qui est aussi un lieu cyberpunk. Il y a Les Furieux, qui est un bar cyberpunk aussi, où on a la contre-culture alternative. Et là, maintenant, il y a La Manufacture, qui vient d'ouvrir depuis 3 mois et qui a déjà pas mal de succès, visiblement, et qui donc m'a invité à venir exposer. Donc, vous êtes invité demain à 19h à venir boire un coup à La Manufacture. Et alors, donc, je vais en finir avec Adam et Ève contre les cyborgs. C'est-à-dire que je pense que cette défiance que nous avons, donc je l'avais déjà dit dans les émissions précédentes, cette défiance que nous avons vis-à-vis des technologies nous vient de la, nous vient du mythe d'Adam et Ève. Ça, c'est un avis personnel, comme ça. C'est... Adam et Ève sont tout nus au paradis. Hein. Ils ne sont pas augmentés, justement. Ils n'ont pas d'outils, ils n'ont pas de vêtements. Et ils n'ont pas de réseaux sociaux autour d'eux. Hein. Ils vivent avec les animaux. Et donc, on a dans notre imaginaire collectif cette idée qu'il existerait un humain affranchi des outils, c'est-à-dire qu'il n'est pas dépendant des machines et qui donc et qu'il ne faut pas perdre. Hein, on va retrouver ce discours-là chez nombre de penseurs de la modernité qui ont constamment un point de vue moral. C'est assez intéressant. Ils se positionnent toujours dans un point de vue moral très particulier où ils vont toujours dénoncer les excès de l'usage ou de l'utilisation ou de la spéculation sur les technologies de façon induite. On retrouve cette posture qui est qu'il existerait donc au fond de nous un humain originel, pur, affranchi de la technologie, qui finirait par être corrompu par un trop gros usage, je dirais, du transhumanisme. Et un des pères, un de ceux qui a le plus, je dirais, souffert de ce phénomène de refus, c'est Norbert Wiener. C'est très intéressant. Il y a d'ailleurs un texte sur Internet qu'il faut lire, qui est un texte de Guy Lacroix, qui met en évidence un oubli. C'est-à-dire que c'est pas seulement Yann qui se dit, tiens, c'est curieux. Quand je demande autour de moi qu'est-ce que ça veut dire cyber, ben personne ne sait. Et donc, j'ai eu l'impression qu'il y avait une occultation. C'est-à-dire, une théorie du complot, je me dis, mais c'est curieux qu'on sache aussi peu en France, alors que les Américains le savent bien. Hein. En allant faire des documentaires au MIT il y a quelques années, à la Brown University, je me suis rendu compte que la plupart des universitaires ou des gens de la cyberculture américaine connaissaient très bien l'histoire de la cybernétique. Mais en Europe, on ne sait pas. Et là, je me suis dit, mais ça ressemble à une occultation. Et en fait, il n'y a pas que moi qui pensais ça, puisqu'il y a un penseur, c'est un chercheur qui s'appelle Guy Lacroix, qui a publié un texte où il explique pourquoi. Et en fait, j'étais mort de rire quand j'ai découvert l'explication du pourquoi Norbert Wiener, la pensée de Wiener a été occultée en France. C'est qu'en fait, Wiener, il en a fait des tonnes quand même. C'est-à-dire que dans un bouquin qui s'appelle Cybernetics and Society, il faut penser que Norbert Wiener, qui est donc l'inventeur de la cybernétique, hein, il était un peu antimilitariste quand même, hein, à son époque, il faut le savoir. C'est-à-dire qu'il avait refusé, ce qui est assez courageux, hein, de refuser d'avoir des financements pour son laboratoire venant de l'armée. Il avait aussi refusé de bosser sur le projet Manhattan. Et bien que ce soit celui qui a inventé donc ce concept de la cybernétique, la partie philosophique de la cybernétique, où c'est le traitement de l'information qui fait la hiérarchie du vivant, c'est quand même quelqu'un qui dénonce les tropismes des chercheurs de l'époque et des politiques à vouloir confier la gestion de la cité aux machines. C'est-à-dire, il dit, mais il ne faut pas. Il y a une envie de scientifiser un peu l'humain et la politique, et d'avoir des machines qui résolveraient les problèmes politiques. Et donc, il lutte contre ça. Et il va partir un petit peu en live quand même, hein, puisque, d'après Guy Lacroix, il va prendre comme... voilà, je vous cite une phrase qui est intéressante d'ailleurs de Wiener, c'est transférer sa responsabilité à une machine, qu'elle soit ou non capable d'apprendre, c'est lancer sa responsabilité au vent pour la voir revenir portée par la tempête. C'est pas mal quand même pour le fondateur de la cybernétique d'avoir un discours de ce genre-là. Mais il continue et il dit, ben oui, non, mais confier ça, il y a un totalitarisme de la machine, du système, tu vois, de ces trucs-là. Et d'ailleurs, c'est comme l'Église catholique. Il va faire une analogie avec l'Église catholique et il va dénoncer le fonctionnement et l'organisation totalitaire institutionnalisée de la foi à travers des mécanismes d'asservissement de l'autre intellectuel de l'Église, très précisément catholique. Donc il ne se fait pas vraiment des amis à l'époque. Et comme nous sommes dans un pays où quand même le christianisme et le catholicisme sont quand même assez puissants, assez présents, et aussi ont énormément influencé la pensée de beaucoup de gens qui réfléchissent sur la modernité, eh ben, ils ont oublié. La cybernétique a disparu en fait, un peu de la réflexion, de l'enseignement, des références qu'on pouvait avoir ici en Europe. Une autre chose qui est bien chez Norbert Wiener, c'est l'identité flamme. Moi, j'aime bien cette idée de... Pour Wiener, l'humain a plus une nature de flamme que d'eau. C'est-à-dire on se transforme en permanence, comme la flamme, tu vois, qui est un renouvellement perpétuel et permanent. Et on est une flamme et on est un message. C'est une identité message. Hein. Et voilà. Et donc, tu veux me dire quelque chose,
n'est-ce pas ? Ouais. Je voulais juste rebondir en fait par rapport à la culture populaire américaine et Matrix, en fait, la relation homme-machine.
Ouais.
Il y a eu un tournant aussi dans la culture hollywoodienne, mais qui existe depuis longtemps avec les comics Marvel, où les sauveurs du monde, en fait, de l'humanité, sont des gars qui se sont pris des rayons gamma en fait dans la gueule, ou alors un gars comme Iron Man qui est bourré en fait de technologie. Et c'est lui qui va sauver en fait finalement l'humanité. Donc c'est en quelque sorte c'est la machine qui arrive
oui,
au secours.
Absolument, mais justement j'avais fait un effort terrible pour occulter cela de mon discours, pour avoir un discours totalitaire disant putain les enfoirés ils essaient de nous faire croire que les machines c'est mal, et j'avais justement évité de parler des super-héros qui sont bourrés de technologie et qui vont effectivement qui sont dans une relation extrêmement positive, hein, dans un discours très positif par rapport à l'humanité. D'ailleurs, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure pour l'émission sur la dimension bleue des avatars, la dimension bleue des superpuissances. Il y a aussi une raison, je pense, qui est par analogie avec la lumière, c'est que plus la lumière monte en température, plus elle va vers le bleu. Plus les lumières sont chaudes, froides, en fait, plus les lumières sont froides, plus elles vont vers le rouge. Et plus les lumières sont chaudes, plus elles vont vers le bleu. C'est une échelle de température de lumière des corps noirs. En fait, plus on chauffe un corps noir, plus il va tendre vers le blanc. Et quand on chauffe très très fortement, il va aller vers le bleu. C'est ce qu'on appelle la science de la... C'est la technique de la température de la lumière en degrés Kelvin, qui est la technique des chef-op et des photographes. Ce qui fait qu'en général, quand un chef-op dit sur un plateau il faut réchauffer cette scène, eh ben on met du bleu, paradoxalement. Pour réchauffer une scène, on met du bleu. Parce qu'on va augmenter sa température de lumière. Intéressant, hein, enfin, c'est rigolo. Je me suis dit, il y a certaines, on est imprégné par certaines métaphores, et donc la technologie est aérienne et lumineuse en fait, est liée à la lumière. Eh bien, tu as raison, François. Je suis d'accord avec toi. Et je ne vais pas te contrarier sur ce sujet-là. Eh bien voilà. Eh bien, comme de toute façon, je pourrais rester encore 3 heures à raconter un milliard de choses. Je voulais juste vous raconter un truc. Oui, c'était le côté initiatique de The Cave, hein, du système d'immersion qui s'appelle The Cave. Mais on va le faire une autre fois. On va le faire une autre fois parce que en fait, ouais, c'est ce qui se passe, c'est que cette défiance vis-à-vis de la technologie qu'on a, qui est, je pense, héritée, qui est un héritage culturel. Fait qu'on a raté quand même en France pas mal le coche des nouvelles technologies. Hein. C'est-à-dire là, actuellement, on a un peu tendance à se la jouer. On est tous cyber, on est tous au courant, on est tous branchés, on fait de l'art numérique. Mais il y a quand même 15-20 ans, moi j'ai vu aux États-Unis, en visitant la Brown University et le MIT, que les étudiants là-bas ont accès à des technologies immersives de ces Minority Report en mieux et en grandeur réelle. Quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas conscience du retard. En fait, on a à peu près 25 ans de retard ici sur ces technologies-là. Et pour les Américains, en particulier, c'est clair. Hein, c'est-à-dire que ça fait partie quasiment d'une sorte de financement militaire hégémonique. C'est-à-dire que les universités, les facs de multimédia sont considérées comme un des fers de lance de la communication et du contrôle de la communication à travers le monde. C'est-à-dire, et il faut penser que la cybernétique, à ses origines, a failli être classée secret défense, hein, comme arme militaire. Hein, c'est Norbert Wiener qui a fait des pieds et des mains pour empêcher que son concept de cybernétique ne soit classé confidentiel défense. Donc c'était considéré, le contrôle de l'information et la maîtrise de l'information, du traitement de l'information est bien considéré par les États-Unis comme une stratégie géopolitique, comme un outil de stratégie géopolitique offensif. Et c'est pour ça qu'ils ont de tels financements aussi dans la recherche multimédia. Et j'aimerais bien un jour que Dassault ou nos industries militaires, finalement, hein, viennent financer à coût de millions d'euros des outils comme The Cave dans les facs d'art plastique et dans les écoles d'art. Tu vois. Voilà. Bon, bah, c'était ma dernière aparté sur les contes de la noosphère de ce soir. Et puis, on va se redonner rendez-vous mercredi prochain. Je ne sais pas de quoi je vais parler, mais
mercredi prochain.
Pardon, pas mercredi prochain.
Si tu veux.
Le premier mercredi du mois. Premier mercredi du mois prochain.
Il faut que tu reviennes à un rythme mensuel.
Voilà. Et où je vais plutôt à.
Tu es radio addict maintenant.
Ouais, je suis un peu radio addict. Hein. C'est un vrai plaisir de raconter plein de choses dans le micro, de propager, de voyager dans les espaces noosphériques.
En fait, on se retrouve le mercredi 6 juin.
6 juin.
Et tout à fait, c'est déjà prévu et c'est une semaine après la sortie d'Alien.
Ah, bah voilà. Alien, on le fait dans Serious Geek quand même.
Bah, tu pourras faire les contes de la noosphère ensuite si tu
veux.
Voilà,
c'est ça, on va enchaîner.
Je pense que sur Alien, il y aura matière à faire.
Ouais. Ouais, surtout que j'ai hâte de le voir. J'ai hâte de voir.
J'ai tellement peur d'être déçu.
C'est pas grave si on est déçu. Il y a toujours des choses bien dans ces films-là, même s'ils sont pas à la hauteur de ce qu'on espère.
Ça fait. J'ai regardé Blade Runner 15 000 fois à peu près. Et Alien, un peu moins.
Ouais.
Bah ouais. Je pourrais pas. Je pense que je ne pourrais pas supporter par être déçu par un film de SF de Ridley Scott. Donc si je ne suis pas là le 6 juin, c'est que j'aurais pas supporté.
Ah non, mais fais pas le plan de me laisser tout seul.
Je te laisse tout seul au micro. Ah non, ouais, si je... Et puis je déteste être déçu par un film que j'ai envie d'aimer. Ça, c'est horrible.
Ouais, mais c'est la meilleure façon d'être déçu, non? T'as pas l'impression? Ouais, ouais.
Je préfère avoir tous ces films qu'on a envie de détester puis qui finalement nous plaisent, comme Intouchables, par exemple.
Ah ouais, Intouchables. Moi, je suis pas fan.
Moi, je suis pas fan non plus, mais je pensais que ce serait une grosse daube, mais en fait, j'ai gaulé.
T'es agréablement surpris, moi.
Ah, je me suis marré. Donc voilà, non, bah, je ne compare pas Ridley Scott à. Je ne sais même plus qui a réalisé Intouchables. François Cluzet. Je ne sais pas.
Ne me demande pas.
Eh bien, écoute, rendez-vous le 6 juin. Merci à François.
Merci à vous.
Et je ne sais pas, est-ce que tu veux clore l'émission par un peu de musique? Je ne sais pas si tu as préparé quelque chose.
Un petit peu de musique pour clore l'émission?
Oui,
absolument, je peux clore l'émission par un peu de musique. Bon, je l'ai un peu déjà fait, mais ça peut être pas mal. Je vais retourner dans le No Bunker.
Ah.
Et je vais rentrer dans le No Bunker où il y a... Voilà, je viens de passer l'ascenseur. Je viens de passer l'ascenseur. Et là, dans le bunker, il y a le dispositif de Media Zero qui va peut-être démarrer. Ça y est, il est peut-être en route. Toc, il a démarré. Et donc, d'ici quelques secondes, le temps que je raconte des bêtises, on va avoir droit à un petit extrait de cette musique de Media Zero qui a été composée par Claude Micheli sur des paroles de Yann Mine, donc. Et qui commence par, par un petit morceau punk. Média c'est moi, média c'est toi. Je suis tes yeux, je suis ta voix. Et ensuite on a l'héroïne qui descend dans les souterrains de la cité et qui va voir les publicités se désagréger sur son chemin. Et pendant ce temps-là, en attendant que la musique démarre, je vous parlerai la prochaine fois donc de ce chalutier coulé dans le port de l'Orient, qui est un de mes petits contes de la noosphère, et peut-être aussi de l'hexapode rebelle. C'est un jour que j'étais dans un laboratoire en train de faire un petit documentaire sur les robots. J'étais dans le laboratoire de robotique de Paris, et un doctorant m'a montré un robot hexapode. C'était pour m'expliquer les prémices de la réalité virtuelle, de l'intelligence collective, qui n'a pas vraiment abouti d'ailleurs pour l'instant, depuis le temps. Et le robot s'est mis à faire des choses étranges. Et c'est là que j'ai réalisé, il y a déjà 15 ans, que les intelligences artificielles étaient déjà parmi nous. C'est à travers ces petits robots.
Qu'est-ce qu'il a fait? Tu nous dis étrange et tu ne dis pas quoi?
Allez, je vous le fais. On va terminer sur un conte de la noce, un petit conte de la cyberculture. C'est un robot hexapode qui a été développé justement par le MIT et qui servait de plateforme de recherche pour les laborantins, pour les chercheurs en robotique. Et moi, je le filme et le doctorant le met par terre et il a 6 pattes, il le met en marche. Et en fait, c'est un robot qui détecte la présence d'obstacles sur son parcours. Donc, il le met en marche et un gros cube qui est posé là et il le pose en direction du gros cube et le robot se déplace vers le cube. Et au moment où il arrive à proximité du cube, il détecte qu'il y a un cube devant lui et il change de direction. C'est très simple. Et, mais comme il était un peu en fin de batterie, je savais qu'on ne pourrait pas refaire l'expérience 36 fois. Donc du coup, je déplace la caméra, je m'empare de la caméra, je la déplace pour faire un autre axe, parce que je me dis, tiens, il faut que je découpe cette scène-là, donc je vais lui demander de... Je vais me mettre sous un autre axe et il va déplacer le cube, et je demande au doctorant de déplacer le cube et de le poser devant le robot, qui a commencé une nouvelle trajectoire, de le poser devant le robot pour avoir un autre axe, pour reproduire la même scène. Et là, le robot... Il faut se mettre à sa place, hein. Il vient de changer de trajectoire, il y avait un obstacle sur son parcours. Imaginez que vous êtes à l'Arche de la Défense, vous marchez, puis il y a un gros cube. Ben, qu'est-ce que vous faites? Vous contournez le gros cube. Et puis vous faites 15 mètres, 20 mètres, vous marchez, et puis tout d'un coup, un cube surgit du néant, apparaît devant vous. C'est ce qui lui est arrivé, c'est-à-dire tout d'un coup, alors qu'il n'y avait pas de cube l'instant d'avant, l'instant suivant, il y avait un énorme cube posé devant lui. Et là, le robot s'est arrêté. Toutes ces diodes se sont mises à clignoter à intermittence et il a écarté les pattes en faisant une crise de tétanie et il est tombé par terre. Et là, je me suis dit, j'ai repensé à la phrase de Rodney Brooks, qui était le directeur du Leg Lab du MIT, qui disait « Est intelligent ce qui nous paraît intelligent. » Hein ? Et là, je me suis dit, ce robot me paraît intelligent parce que c'est à peu près le même genre de choses que je ferais si un énorme cube surgissait devant moi, du néant, sur mon parcours. Et voilà. Donc, pour terminer cette petite soirée, on va mettre la musique de Média Zéro.